pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les As de l'Info et Québec Science. Encore des tarifs? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 25 août 2026 dans Les As de l'Info. C'est reparti. Depuis samedi, les États-Unis appliquent de nouveaux tarifs sur des centaines de produits canadiens. Le premier ministre canadien, Mark Carney, a promis de répliquer avec d'autres tarifs. Tout ça crée beaucoup d'incertitudes des deux côtés de la frontière. Je t'explique. C'est quoi des tarifs? C'est un montant d'argent supplémentaire qu'une entreprise doit payer quand elle achète un produit qui vient d'un autre pays. En gros, les produits étrangers coûtent plus cher. Le but de Donald Trump, en imposant des tarifs au Canada, est que les Américains choisissent des produits faits aux États-Unis, donc moins chers, ce qui est bon pour l'économie de son pays. Reculons en juillet. Le président Trump annonce l'arrivée de nouveaux tarifs sur les produits canadiens. Il déclare qu'à partir du 19 août, il imposera des frais de 50 % sur des centaines de produits faits ici et vendus aux États-Unis, comme le vin, les bâtons de hockey et les meubles. Évidemment, ça ne fait pas l'affaire du Canada. Alors, pendant plusieurs semaines, des négociateurs canadiens essaient de convaincre le président et son équipe de ne pas aller de l'avant avec cette nouvelle taxe. Le 18 août, il y a une lueur d'espoir. On annonce que les tarifs sont reportés de 3 jours. Les deux pays seraient sur le point de s'entendre. Mais tard en soirée, le 21 août, le Canada déclare qu'il arrête de négocier et qu'il ne signera pas d'entente. Pourquoi? Des demandes de dernière minute de la part des États-Unis sont jugées inacceptables. Les tarifs sont donc entrés en vigueur le 22 août. Maître chez nous. Samedi matin, Mark Carney s'est adressé aux Canadiens. Il a expliqué pourquoi le Canada avait arrêté de négocier. Les États-Unis auraient voulu, entre autres, limiter la liberté du Canada de signer des accords avec d'autres pays. Ils auraient aussi demandé d'assouplir les lois qui protègent la langue française au Canada. Nous n'étions pas prêts à faire de compromis sur notre souveraineté, la protection de la langue française et notre culture, a dit Mark Carney samedi. Le premier ministre a dit que le Canada allait à son tour mettre en place des tarifs sur les produits américains. Ces nouvelles taxes entreront en vigueur le 8 septembre. Pour atténuer les effets des tarifs sur les Canadiens, des mesures d'aide ont aussi été annoncées. Par exemple, le gouvernement du Québec prêtera des sous aux entreprises touchées. Pourquoi parle-t-on de guerre commerciale avec les États-Unis? Ce sont des mots très souvent utilisés dans les médias pour parler de cette situation. Ne t'inquiète pas, c'est une image. Il n'y a pas de véritable guerre avec des soldats entre les États-Unis et le Canada. Mais il y a un affrontement entre les deux pays. Et ce sont les tarifs qui servent d'armes. Ce sont des mesures qui visent à affecter l'économie de l'adversaire dans le but de le faire plier. Les États-Unis les mettent en place et le Canada riposte. Même si ce n'est pas une vraie guerre, il y a des victimes. Ce sont les consommateurs qui paient de plus en plus cher leurs produits, les entreprises des deux côtés de la frontière qui perdent des clients et des travailleurs qui perdent leur emploi. Est-ce que tu crois que les citoyens peuvent jouer un rôle dans cette guerre commerciale? Par exemple, en n'achetant plus de produits qui viennent des États-Unis? Est-ce que c'est efficace, selon toi? se couper du monde le temps d'un rêve. Un texte paru le 22 mai 2020 dans le magazine Québec Science. Même endormi, ton cerveau reste attentif à son environnement, sauf pendant tes rêves. Tu as dû le remarquer, bien souvent, les rêves que tu fais n'ont pas grand-chose à voir avec le monde qui t'entoure pendant que tu dors. Pourtant, même endormi, ton cerveau reste attentif à l'environnement, indispensable pour te réveiller en cas de danger. Des scientifiques spécialisés sur le sommeil ont enregistré l'activité cérébrale de dormeurs pendant la phase de sommeil paradoxal, celle où les rêves sont plus fréquents. Leurs analyses ont montré que le cerveau serait moins attentif aux informations de l'environnement au cours de cette période. Pour arriver à cette conclusion, ils ont placé des électrodes à la surface du crâne des participants afin d'enregistrer leur activité cérébrale. La machine détecte l'activité électrique de nos neurones et donne un graphique qu'on appelle électroencéphalogramme. Leur démarche en trois étapes. Étape 1. Alors que les sujets étaient éveillés, ils leur ont fait écouter des sons en français et des sons ressemblant au français mais qui n'avaient aucun sens. En analysant l'activité cérébrale, ils ont constaté que les cerveaux des participants prêtaient plus attention aux sons qui avaient du sens, en français donc. Plutôt logique. Étape 2. Ils ont réitéré l'expérience, mais pendant la phase légère du sommeil et sont arrivés à la même conclusion. Bien qu'endormi, notre cerveau traite les informations de l'environnement. Étape 3. Ils ont ensuite répété l'opération pendant la phase de sommeil paradoxal. Pendant cette phase, nos yeux font des mouvements très rapides lorsque nous rêvons. Les résultats ont cette fois montré que notre cerveau continue à analyser les informations environnantes, mais que son activité baisse significativement dès qu'apparaissent les mouvements oculaires. Il semble donc que notre cerveau tente de se couper du monde extérieur pendant les rêves. Pour les scientifiques du sommeil, ce mécanisme protégerait la période de rêve. En effet, même si leur fonction n'est pas encore bien comprise, les rêves sont associés à la mémoire et plus particulièrement au processus de consolidation des apprentissages. Autrement dit, tu peux toujours rêver, ça aide à étudier. Dolly Parton, la reine de la country, est décédée. Un texte de Anne-Sophie Gravel, paru le 25 août 2026 dans les As de l'Info. Triste nouvelle dans le monde de la musique. La famille de la chanteuse américaine Dolly Parton a annoncé mardi son décès à l'âge de 80 ans. Voici cinq choses à savoir pour comprendre pourquoi elle était considérée comme une véritable légende, même au-delà de la musique country. 1. Elle a travaillé très fort. La vie de Dolly Parton est inspirante parce que la star a toujours fait preuve d'une grande détermination. Sa route n'était pas tracée d'avance parce que Dolly est née dans une famille très pauvre du Tennessee, un État américain. En plus, ce n'était pas facile pour une femme de faire sa place dans l'industrie de la musique country dans les années 1960. Dolly Parton a dû prouver qu'elle méritait de briller autant que ses collègues masculins, non seulement comme chanteuse, mais aussi comme compositrice et musicienne. 2. Elle était aussi actrice. Dolly Parton a joué dans quelques films, surtout dans les années 1980. Le plus connu est le film « Comment se débarrasser de son patron ». Dans le film, son personnage dénonce les conditions de travail des femmes de l'époque. On peut aussi y entendre son grand succès « 9 to 5 », écrit pour l'occasion. Elle a aussi prêté sa voix à un personnage secondaire du film Gnoméo et Juliette, sorti en 2011. 3. Elle était la marraine de la chanteuse Miley Cyrus. Miley a souvent répété que Dolly était l'une de ses artistes préférées et l'une de ses plus grandes inspirations de tous les temps. Elle a même repris la chanson « Jolene », un immense succès de Dolly Parton. Dolly a pu guider sa filleule dans l'industrie de la musique. Elles ont toujours été très proches et ont partagé la scène plusieurs fois. Tu l'as peut-être déjà entendu, mais dans la version la plus connue chantée par Whitney Houston. C'est pourtant Dolly Parton qui a composé l'original dans son style country habituel. Dolly Parton estimait d'ailleurs avoir écrit environ 3000 chansons dans sa vie pour elle et pour d'autres artistes. Elle a remporté de nombreux prix, dont 11 Grammy Awards, l'une des plus prestigieuses récompenses américaines pour la musique. Elle était très généreuse. Tout au long de sa vie, Dolly Parton a pris la parole pour défendre celles et ceux qui vivaient des injustices. Elle a toujours utilisé sa richesse pour apporter son aide à diverses causes. Elle a, par exemple, créé sa propre fondation, la Dollywood Foundation, qui a remis de nombreuses bourses d'études. Elle espérait ainsi lutter contre le décrochage au secondaire. Elle a aussi créé un programme pour distribuer des livres à des enfants du monde entier. Les inscrits peuvent recevoir un livre par mois de leur naissance jusqu'à leurs 5 ans. Dis-moi, qu'as-tu ressenti en écoutant la chanson de Dolly Parton « I Will Always Love You » Moi, c'est une chanson qui me touche toujours autant à chaque fois que je l'écoute. La peur, un mécanisme de survie inné. Un texte paru le 31 janvier 2020 dans le magazine Québec Science. Ancré au plus profond de ton cerveau par des milliers d'années d'évolution, la peur est un mécanisme de survie inné, un signal d'alarme qui prépare ton corps à l'action face au danger. Que se passe-t-il dans ton cerveau quand tu as peur? Samedi soir, tu as la maison rien que pour toi. Tu t'installes confortablement sur le sofa avec un bol de pop-corn. Soudain, une porte grince au sous-sol. Tu te figes en un instant, l'oreille aux aguets, les pupilles dilatées. Tu sens la chair de poule se propager sur tes bras. Ton cœur bat fort, tu as chaud et ton ventre se noue. Tu as peur. Même si tu te trouves ridicule, impossible de contrôler cette émotion forte. En fait, il s'agit d'une réaction innée déclenchée par ton cerveau qui met ton corps aux aguets, prêt à réagir à la menace. Tu ne peux rien y faire. Au son de la porte grinçante, ton oreille a transmis un signal vers une partie du cerveau appelée thalamus. Celui-ci joue un peu le rôle de centre de distribution et relaie l'information envoyée par tes sens aux autres zones de ton cerveau. Si l'information transmise semble menaçante, le thalamus l'envoie sans plus attendre à l'amygdale, centre de contrôle des émotions fortes et surtout de la peur. C'est cette partie du cerveau, une fois activée, qui produit une cascade de signaux destinés à stimuler le système nerveux sympathique. Ce dernier prépare ton corps à l'action en libérant deux hormones dans ton sang, l'adrénaline et le cortisol. Quand tu trouves finalement le courage de descendre au sous-sol, le cœur battant dans tes oreilles, une boule de poils se faufile entre tes jambes en miaulant. Soulagé, tu remontes en t'assurant de bien fermer la porte. Là aussi, cette émotion est dictée par ton cerveau. Pendant que le thalamus activait l'amygdale pour te préparer à réagir à n'importe quelle éventualité, il envoyait aussi l'information au cortex préfrontal, siège du raisonnement logique. Là, si la menace n'est pas réelle, un signal est envoyé à l'amygdale. Pas de panique, c'était le chat. Et tout ton corps se relâche. La peur n'est pas uniquement une question de réflexe, mais aussi de mémoire. Si plus jeune, tu t'es déjà brûlé sur le four, ce souvenir peut ressurgir pour te mettre en garde. Grâce à la peur ainsi provoquée, ton cerveau te permet d'anticiper et d'éviter les situations dangereuses auxquelles tu as déjà été exposé plus tôt dans ta vie. Comme quoi, la peur peut te rendre service. C'était La peur, un mécanisme de survie inné, un texte paru le 31 janvier 2020 dans le magazine Québec Science. On survole l'univers des cerfs-volants. Un texte de Laurence Mongeau, paru le 24 août 2026 dans les As de l'Info. Du 14 au 16 août avait lieu à Montréal le festival Grains de ciel. Pendant 3 jours, des centaines de visiteurs se sont rassemblés au parc Frédéric Bach pour observer des cerfs-volants. C'était la première fois que je découvrais cet univers et sa popularité. Aujourd'hui, on survole ce que j'ai appris. Dans le ciel du monde entier, certains participants sont venus des États-Unis et de l'Europe pour participer au festival. Cette pratique vient d'ailleurs de très, très loin. Les cerfs-volants sont nés en Chine il y a plus de 2000 ans. À l'époque, on fabriquait de grands cerfs-volants avec du bambou et du papier. On les utilisait parfois pour faire des signaux ou mesurer des distances. Petit à petit, les cerfs-volants ont voyagé dans le reste du monde. Ils ont entre autres servi à faire de la photographie aérienne, à aider les météorologues et même à effectuer des sauvetages en mer. Aujourd'hui, ils servent surtout à jouer. Attention à l'attention. C'était la première fois que j'essayais de faire voler un cerf-volant et je dois t'avouer que ce n'est pas aussi simple que ce que j'aurais cru. Il faut d'abord trouver le bon endroit et se placer face au vent. C'est lui qui pousse sur la toile et fait monter le cerf-volant, tandis que sa queue le stabilise pour l'empêcher de virevolter dans tous les sens. Nous, on doit rester attentif à la force du vent et tirer sur la corde pour garder notre cerf-volant dans les airs. Si on tire trop ou pas assez, c'est le plongeon assuré. Au début, j'ai eu un peu de difficulté avec les décollages. Le cerf-volant tombait, tournait sur lui-même ou partait dans la mauvaise direction. Mais avec un peu de pratique, j'ai vite appris à le guider et à le faire danser dans le ciel. Si faire voler un cerf-volant est une activité calme et paisible, il y a tout de même des règles à respecter avant le décollage. Les voici. 1. Vérifie le vent et la météo. Un bon cerf-volant a besoin d'un peu de vent pour prendre son envol, mais pas besoin d'une tornade. S'il y a un orage ou des éclairs, mieux vaut le ranger, sinon tu risques de te blesser ou de l'endommager. 2. Éloigne-toi des lignes électriques. Les cerfs-volants aiment prendre de la hauteur, mais les lignes électriques ne sont vraiment pas le bon endroit pour s'accrocher. Choisis un grand espace dégagé, loin des arbres, des routes et des bâtiments. 3. Garde un œil autour de toi. Tu veux avoir les yeux dans le ciel, mais n'oublie pas de regarder où tu mets les pieds. Surveille les personnes et les obstacles autour de toi pour éviter les blessures. Faire voler un cerf-volant, ce n'est pas supposé être douloureux. 1001 possibilités. J'ai été fasciné par le nombre infini de modèles de cerf-volants qui existent. Au bout de chaque cerf-volant, Il y a une personne qui tire, relâche, s'ajuste, regarde attentivement et veille au mouvement du vent. Une personne qui a peut-être passé des heures à dessiner, coller, coudre et assembler son modèle. À le tester, puis à le modifier, puis à le retester et le remodifier. C'est un art qui prend beaucoup de temps. Et toi, si tu pouvais créer un cerf-volant de la forme que tu désires, de quoi aurait-il l'air? Pourquoi tes écouteurs sont toujours emmêlés? Un texte paru le 23 mars 2020 dans le magazine Québec Science. De temps en temps, les scientifiques se posent les mêmes questions que toi. Pourquoi les fils de tes écouteurs sont-ils toujours emmêlés? À question simple, réponse moins simple. Il y a d'abord une explication probabiliste. Quand tu marches avec tes écouteurs dans la poche, tu les désorganises de plus en plus. À chaque pas, le câble se déplace un petit peu. Par eux-mêmes, tes écouteurs se retrouvent alors dans une configuration complètement aléatoire quand tu les sors de ta poche. Or, la configuration parfaitement démêlée n'est qu'une possibilité parmi les milliards de configurations différentes que peuvent prendre tes écouteurs. La probabilité que tu les retrouves dans cet état en les sortant de ta poche est donc d'une sur plusieurs milliards. Autrement dit, très infime. On peut aussi l'expliquer en d'autres termes, plus physiques. Chaque mouvement désorganise les écouteurs un peu plus. Les scientifiques ont défini une quantité qui mesure ce désordre, l'entropie. Dès que tu fais quelque chose, que ce soit marcher, manger ou même dormir, tu crées de l'entropie. Autrement dit, tu crées du désordre. C'est pour ça que, quand tu te réveilles, les draps sont tout dérangés ou que, malgré tes meilleurs efforts, il y aura toujours une chaussette perdue quelque part dans ta chambre. Est-ce que c'est possible de se battre contre l'entropie? Oui et non. Tu peux toujours démêler tes écouteurs, mais ils vont toujours s'en mêler dans ta poche. Un scientifique britannique, Robert Matthews, a trouvé une façon de mettre ses écouteurs dans sa poche pour les empêcher de s'en mêler au maximum. Il faut fixer les deux petits haut-parleurs ensemble, avec un petit élastique par exemple, puis fixer l'autre extrémité, la prise audio, à ces deux haut-parleurs avec un autre élastique. Ça reste tout de même assez peu pratique, tout ça. Il va peut-être falloir vivre avec des nœuds un peu plus longtemps ou t'équiper d'écouteurs sans fil. C'était « Pourquoi tes écouteurs sont toujours emmêlés ?» un texte paru le 23 mars 2020 dans le magazine Québec Science. Un émoji pour le drapeau acadien? Un texte de Clémence Tessier, Réseau Presse, paru le 24 août 2026 dans les As de l'Info. Tu dois souvent utiliser les émojis de cœur, de rire ou de pouce en l'air. Mais savais-tu qu'il existe aussi des centaines d'émojis représentant des drapeaux? Mais pourtant, il en manque un important pour plusieurs personnes. Celui de l'Acadie. Aujourd'hui, je te parle de l'initiative de deux amis qui veulent que ça change. Un symbole qui manque. C'est Alexis Béliveau, un musicien de Moncton au Nouveau-Brunswick, qui a eu l'idée. En cherchant un émoji du drapeau acadien pour une publication sur les réseaux sociaux, il a alors découvert qu'il n'en existait pas. Pour remédier à la situation, il a décidé d'essayer d'en créer un avec son ami Julien Robichaud. On jasait un peu des difficultés liées au fait d'exprimer notre fierté acadienne. C'est tannant de devoir utiliser différents émojis pour représenter le drapeau acadien, raconte Julien à Acadie Nouvelle. Par exemple, certaines personnes utilisent le drapeau français avec une étoile ou d'autres émojis pour essayer de représenter l'Acadie. Mais comment on s'y prend pour créer un émoji? Alexis et Julien ont lancé une initiative avec la boîte de création chiac.com et le groupe de musique d'Alexis, Chermisère. Leur objectif? Convaincre Unicode, une organisation qui établit les règles pour les émojis, d'accepter leur idée. C'est elle qui examine les propositions et décide quels nouveaux émojis peuvent être créés. Quand on a trouvé comment faire, on s'est dit « Pourquoi ne pas essayer ?» On est deux jeunes Acadiens et on est fiers, se rappelle Julien. Pour mettre plus de chance de leur côté, les deux amis ont lancé une pétition en ligne et elle compte déjà plus de 13 500 signatures. Plus leur demande recevra de soutien, plus ils pourront montrer à Unicode que les gens veulent vraiment utiliser cet émoji. Plus qu'un émoji. Pour les deux amis, ce projet ne sert pas seulement à ajouter un petit symbole sur nos téléphones. Il y a beaucoup de fierté autour du drapeau acadien. Ce serait bien de pouvoir l'exprimer avec un émoji, explique Alexis à Acadie Nouvelle. Le processus pour faire accepter un nouvel émoji peut prendre jusqu'à 2 ans, mais les deux amis sont optimistes. On a de bonnes chances que l'émoji du drapeau acadien soit reconnu. Ça s'explique parce qu'on fait partie d'une même culture et on se reconnaît sous ce drapeau. Y a-t-il un symbole de ta culture ou de ta région que tu aimerais voir devenir un émoji?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo.
On se retrouve la semaine prochaine.